Vision d'histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous accueillir comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conversation avec Mme Brigitte Collier, historienne, professeure au département d'histoire de l'Université Laval et directrice à cette même université du Centre interuniversitaire d'études québécoises. Bonjour Mme Collier.
Bonjour Mme Dumais.
Merci pour cette belle émission que nous allons vivre ensemble, qui va sûrement être une suite intéressante à celle de la semaine dernière. Donc, nous nous intéressons à l'enseignement de la religion à l'école au Québec entre 1900 et 1950. La semaine dernière, vous aviez tracé à grands traits, je dirais, un petit peu le contexte général. On avait vu un premier artisan très important, Mgr François-Xavier Ross, qui a été évêque de Gaspé, et on avait vu son apport. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots son apport pour cette évolution?
C'est la personne qui a voulu faire d'une école une école pour la vie. Permettre à des enfants de se développer à leur rythme et sortir de l'école avec un bagage, je dirais, de base. Pour lui, l'important n'était pas de survaloriser la mémorisation, mais de rendre des enfants capables de bien se débrouiller dans la vie. Et donc, pour lui, ça incluait évidemment toute la formation religieuse des enfants. Il a eu les outils, je dirais, hein, et il avait le pouvoir aussi de changer les choses. Donc, il a été l'auteur de cette réforme du programme du niveau primaire qui a été mise en vigueur en 1923. Il aura l'occasion aussi, à bien des reprises, de s'impliquer au comité catholique, dans les comités d'élaboration aussi des réformes. C'est donc un personnage très important de l'éducation au Québec dans ces années-là.
Et vous avez bien mentionné de l'éducation au sens large et pas seulement de l'enseignement religieux. Il a aussi une préoccupation pour la formation des enseignants dans un tel contexte.
Tout à fait. Pour lui, ce type de réforme n'est pensable qu'avec la réforme de la formation des maîtres. Et il a été, du reste, artisan de réforme dans les années 30 des écoles normales. Pour lui, l'un ne va pas sans l'autre.
Et donc, son héritage est important au 20e siècle pour l'enseignement de la religion à l'école. Il y a une autre personne aussi, une religieuse, Sœur Saint-Ladislas, qui va avoir une grande importance. Vous pouvez nous la présenter un petit peu?
Alors, Sœur Saint-Ladislas, c'est une personne qui malheureusement a une vie trop courte pour mener à bien tous les projets qu'elle avait prévus. Elle est née à la fin du 19e siècle. Elle venait d'Abitibi-Témiscamingue et elle entrera dans une communauté qui était dans ces villages de colonisation, les Sœurs de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge de Nicolet. Alors, elle a été éduquée par ses sœurs et elle y entrera, et c'est certainement l'un des personnages les plus marquants de la communauté. Elle a une expérience d'enseignante, évidemment, très importante. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle chemine sur le terrain. C'est le terrain qui lui dit que l'enseignement du catéchisme, avec forte mémorisation, ne donne pas les résultats qu'on voudrait. Donc, je dirais que, soutenue par sa communauté, bien évidemment, elle va utiliser, je dirais, les écoles de sa communauté comme un véritable laboratoire pour tester tout ce qu'elle va entreprendre dans son œuvre catéchistique.
Et elle va donner beaucoup d'importance, je crois, aux images et aux chants.
Images, chants, dessins, donc toutes les, toutes les indications qu'on avait sur de l'école active, ça c'est tout l'héritage de l'école active, de faire en sorte que l'enfant participe, qu'il soit intégré, que les exemples qu'on donne viennent de la vie de l'enfant et non pas plaqués, je dirais, d'un autre monde. Partir de sa vie, pour revenir, par exemple, à des exemples de l'Histoire sainte, mais pas partir de l'Histoire sainte pour aller à l'enfant, mais voir ce qu'on peut vivre et qui peut nous rappeler l'Histoire sainte ou l'enseignement, les questions du catéchisme. Donc, elle va travailler à la fois sur la formation des institutrices et elle s'est occupée des novices, de ce point de vue-là, et elle a beaucoup travaillé avec elle pour perfectionner sa méthode. Et en même temps, elle s'occupera des enfants en proposant des cahiers d'activités où elle laisse l'imagination de l'enfant faire son chemin.
Et je crois que le programme de 1948, on y voit sa trace d'une certaine façon.
Écoutez, c'est certain aujourd'hui. Bon, on a eu aussi, je dois dire, une thèse fort intéressante de Jeannine Gauthier sur Saint-Ladislas. Le programme de 48 de religion est en fait tout à fait un décalque de la méthode d'Au Petit de Royaume qu'elle avait créée elle-même à la fin des années 30.
Et si vous permettez, je vais lire un court extrait de ce programme. Ce serait une grande erreur de borner au catéchisme proprement dit ses préoccupations de synthèse, d'enseigner l'Évangile, l'Histoire sainte, l'apologétique et l'histoire de l'Église comme autant de branches indépendantes, de diriger la croisade eucharistique en marge des leçons de catéchisme, et de ne pas comprendre que c'est au cœur de ces mêmes leçons que nos militants d'Action catholique doivent alimenter leurs ailes pour l'avancement du royaume.
Et voyez, ça fait partie, c'est un texte qui est issu du programme qu'elle a donné. Elle a la conscience que les choses changent au Québec. Et elle l'a par ce contact constant avec les enfants, avec les réponses des enfants. C'est quelqu'un qui testait les images qu'elle employait, les histoires, etc. Et elle se rend compte, et elle le dit à plusieurs reprises dans ses correspondances, que telle image, tel récit ne passe plus. Les enfants ne comprennent plus. Et pour elle, ce sont des changements profonds, je dirais. Elle est témoin de la sécularisation des consciences de façon aiguë. Et elle nous évoque souvent aussi le fait que les parents n'embarquent pas assez dans le soutien à leurs enfants en matière d'enseignement religieux. Donc, elle veut adapter par une méthode l'enseignement du catéchisme. Mais, et c'est là sa difficulté, elle est obligée de faire avec un catéchisme officiel qu'elle ne peut pas toucher. Les évêques en ont décidé. Il y a un catéchisme officiel. Donc, je dirais, elle essaye, par la méthodologie qu'elle propose aux institutrices et aux instituteurs, de changer, de présenter autrement ce catéchisme pour qu'il puisse porter fruit et qu'il soit, je dirais, beaucoup moins sec que cette mémorisation de questions-réponses.
Et cette vision du programme, donc, se base sur une orientation beaucoup centrée autour du Christ lui-même.
Oui, tout à fait. Parce que pour elle, le catéchisme, ce n'est pas la somme des connaissances qu'on va apprendre, c'est d'être capable de se mettre, je dirais, dans les pas du Christ, de faire confiance à ce bon Dieu dont elle parle tout le temps, ce Dieu d'amour qu'elle évoque constamment, et elle a, je veux dire, toutes ses expressions, tout son vocabulaire, hein, sa méthode, c'est Au Petit du Royaume. Les cahiers d'exercice, c'est les cahiers de l'enfant du bon Dieu. Hein. Donc, elle cherche à développer une relation. Hein. Et c'est une catéchèse qui est essentiellement existentielle. Il faut faire vivre ces enfants dans le Christ, dans la foi, et non pas simplement leur donner un bagage de connaissances. Parce que pour elles, s'il y a connaissance d'un côté et vie complètement déconnectée du message, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça. Elle a raté. Si c'est ça, c'est raté. L'enseignement religieux ne donne rien. Et c'est pour ça qu'elle est aussi... elle a parlé d'action catholique. Parce que pour elle, ces personnes-là, après ça, pourront s'engager. Alors, vous voyez comme c'est novateur. C'est pas des... Tout ce que je vous dis là, hein, on l'entend, on l'a entendu, mais ce sont des personnes qui sont à l'origine de ces changements-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Au Petit du Royaume a été diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires. Là, on parle d'ouvrages qui ne sont pas restés dans les bibliothèques, hein, qui ont été entre les mains des instituteurs et des institutrices.
Vous écoutez Vision d'Histoire, je suis en compagnie de Mme Brigitte Collier. Mme Collier, dans votre article Apparaître, vous dites à un moment donné « La séduction a remplacé la crainte dans la présentation du message » et vous parlez du message donc présenté par Sœur Saint-Ladislas. C'est moins la conformité aux normes morales pardon, qui serait la fin de cet enseignement que l'amour du prochain qui doit prévaloir.
Oui, et ce qui est important dans cette démarche, c'est qu'il ne s'agit pas, je dirais, d'avoir, j'irais, des réflexes conditionnés. Il ne faut pas faire ça, tu ne fais pas, parce que la conséquence, ça peut être telle chose. Sœur Saint-Ladislas va beaucoup plus loin, parce que, la norme suprême, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain, et il ne s'agit pas pour elle de développer chez l'enfant de simples réflexes de base, en disant « ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé ». Elle va beaucoup plus loin. C'est très exigeant, en un sens. Sœur Saint-Ladislas, elle nous mène très loin dans cette confrontation, je dirais, entre ce que nous sommes et nos grandes faiblesses. Et puis, elle montre cet amour immense de Dieu qui est très généreux, mais qu'on devrait approcher. Et donc, l'exigence, en un sens, est beaucoup plus forte. On pourrait dire ça. Hein. C'est moins dans une pratique juridique qu'elle propose son enseignement que celui qu'on pourrait voir dans le catéchisme catholique, en un sens.
Et ce que je trouve très intéressant, autant dans le cas de Mgr Ross que celui de Sœur Saint-Ladislas, c'est que ce sont des gens de l'intérieur de l'Église qui proposent des changements qui sont tout à fait novateurs pour leur époque.
Ils sont effectivement à l'intérieur de l'Église. Ça ne se passera pas forcément toujours bien pour eux. Mgr Ross est contesté quand il fait son programme de 1923. Nous avons des dossiers d'archives qui nous donnent les réactions, parce qu'il ne faut pas imaginer que dans les anciens programmes, on ne consultait pas ni les pédagogues, ni les autorités, ni les maisons d'éducation. Il y avait des consultations, des questionnaires qui circulaient sur les programmes. Et on a des réponses, en particulier de certaines communautés religieuses, qui nous disent « Mais voyons, vous allez tout défaire. Si on ne mémorise plus, on va tout perdre. Les enfants vont quitter l'Église. » Et pour Sœur Saint-Ladislas, c'est pareil. Elle n'avait pas de difficulté dans sa communauté. Et sa communauté a bien accepté son programme. Plusieurs communautés ont emboîté le pas. On a tout un réseau comme ça de communautés enseignantes qui ont repris ce type de méthode. Mais on a des anecdotes de sa part qui nous disaient combien il était difficile à la fois d'être une petite religieuse donc une femme, et d'aller donner des cours à des séminaristes ou à des jeunes prêtres dans certaines universités pour des cours d'été, de formation donc à ces nouvelles méthodes.
Et elle a un doctorat à l'époque.
Elle a un doctorat, oui, elle arrive devant eux avec un doctorat, mais on la regarde de haut. Qui est donc cette petite religieuse qui va leur apprendre à faire le catéchisme. Alors, ça n'a pas forcément été facile, d'autant que pour Sœur Saint-Ladislas, il y avait vraiment cette difficulté de ne pas pouvoir créer des manuels qui englobent aussi le catéchisme. Elle a fait des méthodes, je dirais, pour permettre une meilleure assimilation du catéchisme. Certains qui voulaient aller plus loin disaient, vous avez fait une méthode tellement exceptionnelle que ça nous freine dans notre opposition au catéchisme par question-réponse. Parce que finalement, vous avez en partie répondu à la difficulté.
Et il y a d'autres communautés religieuses qui, elles aussi, vont prendre des stratégies pour développer des stratégies pour faire apprendre, je dirais, l'enseignement de la religion à l'école. Donc, vous appelez ça dans votre article des stratégies pédagogiques de contournement.
Et oui, parce que comme la matière était aride, évidemment, et qu'on ne pouvait pas sortir du livre, eh bien, les communautés en particulier se sont mises à la tâche de développer donc des manuels, ce qu'on appelle des manuels d'appoint, ou des catéchismes expliqués. Ça, c'est la version, je dirais, la plus ancienne. On prend les questions du catéchisme et puis en dessous, on donne les définitions des termes. Quand on veut faire un peu plus raffiné, on fait référence à des citations bibliques qui permettront d'expliquer les termes. Mais d'autres stratégies plus récentes ont été de faire des cahiers d'exercices. Et ça, c'est à partir, je dirais, des années 30-40 qu'on donne des cahiers aux enfants qui, soit comme Sœur Saint-Ladislas, je dirais, permettent aussi l'imagination, la créativité des enfants, soit des cahiers comme ceux des frères des écoles chrétiennes qui sont plus orientés vers la mémorisation différente du catéchisme. Alors, avec des vrais faux, des dessins à compléter, quelques petites phrases à ajouter. Ça a été l'une des stratégies, créer ce que j'appellerais aujourd'hui des posters pour illustrer certains aspects. Il y a eu énormément de recherches qui s'est faite, particulièrement à partir des années 30, pour améliorer, pour rendre, je dirais, plus parlante cette formation.
Et toute cette production parallèle, quel lien entretient-elle avec, par exemple, les sacrements, les évangiles?
Alors, c'est une production qui, dans certains cas, par exemple, lorsque apparaît la première communion à 7 ans, va se présenter sous forme de petits fascicules à remettre aux parents et aux enfants pour cette formation de base. On va répondre à des besoins là très spécifiques, en particulier avec la première communion, qui peut à la fois être fait à l'école, mais dans certains cas, les enfants n'y étant pas encore, ben il faut suppléer au fait. Il faut leur donner quelques enseignements pour qu'ils puissent communier, je dirais, quand même, en toute connaissance de cause pour leur âge.
Et je crois, en droite ligne avec ce que pensait Sœur Saint-Ladislas, qu'on essaie de rechercher l'adhésion volontaire de l'enfant dans cette formation.
Oui. C'est tout le rapport, je dirais, à l'autorité. Il est sûr que la formule par question-réponse est une formule d'autorité. Question, cette réponse-là est la seule possible. Sœur Saint-Ladislas choisit une orientation qui est existentielle. On doit, je dirais, j'ose pas dire convertir, mais c'est peut-être ça aussi à l'époque, elle l'aurait peut-être dit, on doit amener l'enfant, le soutenir dans une démarche spirituelle et intérioriser donc le message. Oh, visitor.
Madame Collier, dans l'article apparaît, toujours le même article. Donc, vous écrivez « Identification au message et intériorisation de la démarche de foi. L'école active bouscule une tradition plutôt orientée sur l'assimilation d'autorité », ce que vous venez dénoncer dans la pause musicale. Pour amener l'enfant à un comportement chrétien, on mise désormais beaucoup plus sur une présentation positive du message qui l'incite à adhérer. Donc, on laisse de côté la crainte, finalement, et on revient donc à ce qu'on abordait tout à l'heure, la séduction, l'adhésion volontaire.
Tout à fait. Et c'est ce que je résumais un peu en disant il faut lui faire apprécier la loi plutôt que de la lui imposer. Donc, il faut qu'il comprenne et qu'il se rende compte, finalement, de la grandeur, je dirais, à la fois du message et comment lui-même peut grandir en changeant d'attitude, en progressant. Et c'est... sont des changements évidemment fondamentaux. C'est un balancement qu'on a, qui n'est pas nouveau, hein, mais qui va s'affirmer et prendre une place de plus en plus importante dans ces années-là. Alors, ça relativise beaucoup ce qu'on dit de la nouveauté des années 60 et des changements qui auront lieu en disant ben, finalement Dieu n'est plus qu'amour, etc. Et certaines critiques qui ont été portées sur la catéchèse qui a suivi. On est à l'origine, je pense, là, de l'affermissement de ces changements. Ce sont des changements qui intègrent aussi la famille et qui incite à un engagement social. Alors, on retrouve évidemment, on a même mentionné Sœur Saint-Ladislas dans le programme l'indiquait, l'action catholique. Hein, c'est tout ce changement qui veut que la personne se prenne en charge et qu'elle soit responsabilisée en tant que adhérent au christianisme, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale. Et de ce point de vue-là, vous savez qu'il y a actuellement beaucoup d'études qui portent sur le personnalisme et la progression du personnalisme au Québec. Et je pense que l'une des voies de compréhension est pour la diffusion ce personnalisme, ce sont ces réformes en enseignement de la religion qui nous les indiquent fortement. Et donc, il y a une responsabilisation qui est faite de l'enfant qui sera lourde. Hein? C'est une catéchèse exigeante parce que, certes, le Dieu est un Dieu d'amour, mais il nous en demande peut-être plus qu'une simple comptabilité, j'irais juridique, des bonnes choses et des mauvais coups qu'on fait.
Et comme on se situe dans un contexte scolaire, bien évidemment qu'il y a une question d'évaluation. Comment on évaluait un tel type de programme?
Alors, c'est là toute la difficulté. Je dirais, c'est là que, voyez, je vous ai dit que la catéchèse avait changé parce qu'elle était placée en milieu scolaire. Je dirais qu'elle est freinée aussi par le fait qu'on est dans un milieu scolaire où, effectivement, il y a une note à la clé de tout ça. Il y a un examen final sur les connaissances religieuses et c'est ce que déplorent souvent les autorités du département de l'instruction publique. C'est que l'examen de religion en septième année a tendance à ramener tout le monde sur la mémorisation et donc à, je dirais, amenuiser finalement les acquis qui ont été faits dans les réformes pédagogiques. Mais en même temps, bon, le département d'instruction publique dit que c'est pas une raison. Là, c'est pas parce qu'il y a un examen qu'il faut que vous centriez tout le travail sur la mémorisation. Mais c'est une tension constante entre ces deux approches.
Et on en arrive déjà à la fin de cette seconde émission. À la fin de votre article, vous dites Pour le catholicisme québécois, ces débats révèlent que pédagogue religieux ne rimait pas toujours avec conservateur et que des lignes de partage très nettes existaient au sein des autorités religieuses en matière d'enseignement de la religion. Et je pense que c'est un des éléments qu'on peut retenir un petit peu de votre démarche de recherche.
Oui, je pense que le... Mais ça a remarqué, on le constate de plus en plus dans les études portant sur le 20e siècle. Il ne faut pas, je dirais, considérer que les réformes qui ont été faites se font à l'extérieur de l'institution. Il y a des réformes qui se font à l'intérieur. Alors, je ne dis pas que nos pédagogues religieux ont réussi complètement. Je ne nie pas les forces conservatrices dans les écoles. Et on le sait, quel que soit quand même, quel que soit le modèle, le système scolaire, il y a toujours, quand arrive un nouveau programme, hein, il y a toujours une période d'adaptation. On y va bon gré mal gré, il faut changer des habitudes. C'est un peu normal. Mais je trouverais dommage qu'on oublie ce travail de fond, discret en un sens, hein, parce qu'on va regarder bon, les historiens, même les sociologues qui s'intéressent à l'histoire, les théologiens vont regarder les grands personnages, vont regarder les grands penseurs, les grands auteurs, alors que là, je dirais, par ce travail-là, on se place sur le terrain là, et auprès des enfants. Donc, s'il y a, je dirais, s'il y a certaines conceptions qui doivent changer, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut les regarder aussi. Et pour moi, c'est un lieu, je dirais, important de changement, discret, mais qui existe. Par contre, je trouve intéressant, et en un sens, il faut creuser cet aspect-là, le fait que quand on interroge les gens, bien souvent, ils vont revenir à des images clichés d'un enseignement figé. Alors, on a encore à travailler. Est-ce que dans les années 50, il n'y a pas eu finalement un raidissement qui fait qu'on a l'image, pour beaucoup de gens, de ce catéchisme gris? Ce qui était la couleur du catéchisme, mais quand on interroge les gens, on a l'impression que c'est aussi l'enseignement qui était gris et pâle de la religion. Alors ça, c'est encore à creuser. Est-ce qu'on est resté sur des images? Est-ce que c'est une construction de la mémoire qui fait qu'on a oublié tous ces volumes qui ont cherché à donner un autre sens à l'enseignement de la religion?
Donc, c'est une histoire et des travaux à suivre.
Tout à fait.
Madame Collier, pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient donc en savoir plus long, parce qu'ils ont trouvé sûrement les deux émissions fort passionnantes, vous avez un article à paraître en Belgique, je crois?
Oui, en Belgique. Ce sont les actes d'un colloque qui sont dirigés par Mélanie Lanouette. Et ça devrait sortir au printemps. Je n'ai pas encore le titre exact du volume, mais je vous tiendrai au courant là-dessus.
Et puis, une synthèse. Une synthèse que vous nous promettez pour 2008?
J'espère, oui.
Madame Brigitte Collier, merci beaucoup pour ces deux émissions fort intéressantes. Merci à Jonathan Martin pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.